Le bar à...
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse,
de Radio Saint-Afrique.
Et bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, et bien, bonne année !
Bonne année ! Voilà. Bonne année !
Voilà, ça c'est fait. Alors, Félix Potin au micro. Je remplace au pied levé notre ami Chaussette qui est perdu sous la pluie entre Montauban et Saint-Afrique. Ben, peut-être qu'elle nous fera la surprise d'arriver. Ce soir, je suis en compagnie de Mei Mei.
Bonsoir.
Voilà, c'est un tout petit bar à chat ce soir.
Voilà, nous sommes victimes d'une épidémie, hein, ouais. On va dire ça, puisque nous retrouvons à deux.
L'épidémie du nouvel an.
On va essayer quand même de faire face.
Voilà, on va faire face. De toute façon, Cécile a quelque chose de très intéressant à vous raconter ce soir.
Bon, on verra ça.
Et on envoie... Eh bien, à toi.
Eh bien, voilà. Moi, je vais vous parler d'écoféminisme. En particulier, grâce à un livre, « Rêver l'obscur, femme, magie et politique » de Starwalk. D'abord, quelle définition donne-t-on à écoféminisme ? L'écoféminisme est un mouvement et un courant de pensée né en 1974, sous la plume de Françoise Daubonne, qui écrit ce terme pour la première fois dans son ouvrage « Le féminisme ou la mort ». Moi, je suis bien d'accord.
Moi aussi.
Cependant, l'américaine Rachel Carson, avec « Printemps silencieux » en 1962, a été la première à dénoncer les atteintes à l'environnement, en particulier par les pesticides. Encore une femme. Et donc, voilà. Et les écoféministes expliquent qu'il existe un lien entre l'écologie et le féminisme. Parce que les comportements de domination et d'oppression que subissent les femmes sont les mêmes que ceux que subit l'environnement et de la part des hommes. Parmi les écoféministes, il y a plusieurs lignes d'action divergentes. Les écoféministes qui prônent l'action politique... C'est le cas de Starwalk. Pour elle, ce sont les femmes qui pourront apporter le changement nécessaire de la politique mondialisée et financiarisée. Parce que le capitalisme est né quand femmes et nature ont été mis sous domination masculine. Et il y a l'autre mouvement écoféministe pour qui nature et femme ont un lien spirituel, résumé dans le concept de la terre-mère, et qui entraîne sur les chemins de la spiritualité, voire de l'ésotérisme. Chemin qui a le même but, cependant, renverser les valeurs actuelles de l'exploitation tous azimuts.
Je me fonds dans les églises pour mendier un peu de paix. Je prie dans les salles d'attente avant d'errer sur les quais. Celui dont j'ai fait rencontre dans tes boyaux engorgés. J'ai pris toute sa fatigue, un peu de plomb sous ses pieds. Sais-tu qu'il est difficile maintenant de porter la terre chaque jour un peu plus là, d'aborder le millénaire.
Laisse-nous seulement entrevoir la bonne combinaison. Ne nous laisse pas nous éteindre la mort.
Dans l'espoir que s'ouvrent enfin quelques portes magnétiques, quelques gouttes de bonheur dans ce mercure éternel, un peu d'or, de lumière pour changer ce plomb de ciel.
Laisse-nous seulement entrevoir la bonne combinaison, ne nous laisse pas nous éteindre la mort.
C'était Daniel Messia. Avec Starwalk, la plus grande difficulté pour en parler et essayer de résumer sa pensée, du moins à mon sens, c'est l'utilisation de termes comme magie, culte, rituel, sorcière, Et ne pas confondre son discours avec une quelconque nouvelle religion. Car ce que propose Starwalk, ce n'est pas un culte de la déesse, comme une lecture rapide pourrait le suggérer, remplacer une religion par une autre. Non, elle propose des techniques pour agir efficacement sur la politique et renverser nos paradigmes. J'adore ce mot. En voici une définition. Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base de règles définies. Et voilà une autre définition pour compléter. Paradigme, conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifique donnée, qui fonde les types d'explications envisageables et les types de faits à découvrir dans une science donnée. Ce qui veut dire que le paradigme débouche sur un conformisme qui filtre la réalité. On peut changer communauté scientifique par communauté économique ou financière, domaine dans lesquels, vous en conviendrez, un changement de paradigme s'impose. Et urgemment.
Clairement, oui.
D'ailleurs, Starwalk précise bien ce qu'elle entend quand elle parle du culte de la déesse. Il est clair que quand je dis déesse, je ne parle pas d'un être se tenant quelque part en dehors de ce monde. J'entends opter pour une autre attitude. Je propose d'appréhender le monde, les gens et les créatures qui l'habitent comme le sens principal et le but de la vie, de voir le monde, la terre et nos vies comme sacrées.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous? Dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes nos sarcasmes aux armes. Aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes, etc. L'État comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté liberté et chérie, ce qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité.
Bien, c'était Mélis Mel. Alors, qui est Starwalk? Ça, je suis accompagnée de mon chat, excusez-moi.
Chat de circonstance.
C'est une Américaine qui, dès la fin des années 60, s'est engagée dans des luttes écologiques et politiques. En participant à des manifestations contre la guerre du Vietnam, contre la construction de centrales nucléaires, contre l'exploitation minière, et en créant et participant à des mouvements de femmes pour un changement de société. Que nous dit Starwalk? Elle analyse dans un premier temps les ressorts de notre culture, notre enfermement. Et elle rejoint en partie, avec d'autres mots, ce qu'Isabelle Stengers appelle la sorcellerie capitaliste. Elle appelle cela le pouvoir sûr. Pour Starwalk, la chasse aux sorcières est le signe, au XVIe et XVIIe siècle, du passage de la société féodale à l'économie de marché. Un changement de paradigme, donc. Tout bascule alors, l'économie, la société, les valeurs. Ainsi, l'éradication des sorcières est inséparable des enclosures, ce vaste mouvement d'expropriation des terres et des ressources naturelles collectives, peu à peu transformé en propriété privée. Cette privatisation a détruit le système de droits et d'obligations mutuelles du village médiéval et empêché l'accès au pâturage, au bois, abris et herbes thérapeutiques. Les femmes, qui étaient souvent en charge des communs, furent les premières à souffrir de leur disparition. La terre est désormais propriété privée, liée, redit Starwalk, à la nouvelle vision du monde qui coupe l'homme de la nature et permet l'exploitation de cette dernière à un degré inconnu jusque-là. Et c'est la fin du monde vu comme interdépendant et interactif, où chaque élément porte en lui une valeur sacrée et qui a survécu au catholicisme à travers la culture des sorcières. En s'attaquant aux femmes paysannes qui prennent souvent la tête des mouvements contestant l'autorité et l'Église, aux femmes âgées qui incarnaient le savoir et la mémoire de la communauté, bref, à celles qui défient l'ordre nouveau, les persécuteurs anéantissent l'idée d'une révolution qui pourrait bénéficier aux femmes, aux pauvres et aux non-propriétaires. Notons que cette chasse aux sorcières a connu une amplification dramatique avec l'apparition d'une médecine scientifique enseignée dans des universités et uniquement masculine. Il n'était pas question que les femmes guérisseuses, qui étaient plus efficaces que cette médecine balbutiante, et c'était pourtant le cas, continuent à exercer leur art. Des milliers de femmes ont ainsi été exécutées, à tel point que dans certains villages, il n'y avait plus une seule femme.
Nom de Dieu, c'est guéguerre, arme à feu, homme à terre. Pour servir la patrie, faut mourir en képi. Nom de Dieu, quelle chaleur, nos petits vieux meurent de peur. Oubliés sur un banc par leurs petits enfants. Quand je vois toute cette soupe qu'on nous montre à la loupe dans le journal du soir, moi, Dieu, je peux pas y croire. Bordel de Dieu, je n'en crois pas mes yeux. Moïse là du con Jésus, on ne les a jamais vus. Elle est morte au cimetière, se tape le cul par terre. Dans leur petite boîte en bois, peuvent pas tomber plus bas. Dieu soit loué ou vendu, mais qu'on n'en parle plus. Moi je préfère pas prier quand je vois l'actualité.
Bon alors c'était Roxane Krief. Cette nouvelle vision du monde, qui date du XVIe siècle, construite par les hommes, mettant l'humanité en position dominante par rapport à la nature, est toujours en action. Les expropriateurs se déplacent dans le tiers-monde, dit Starwalk. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils se déplacent partout, détruisant les cultures, pillant les ressources de la terre et des gens. Et, j'ajouterais, empoisonnant tout ce qui vit. L'antidote pour Starwalk consiste précisément à se nommer. Et se nommer sorcière, c'est rendre aux femmes le droit d'être puissantes et même dangereuses. Faire d'elles les héritières des guérisseuses et des sages-femmes. Et ouvrir de nouveaux possibles, politiques, artistiques. Et Starwalk insiste, c'est se réapproprier un terme qui a été une insulte et la cause d'un immense massacre de femmes.
Marchons encore. Rêvons encore.
déchirures à la mâchoire. Ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont fait, livrer mon âme, vendu mon corps, laissant mon cœur aux gens mauvais, aux plus offrant mes rêves morts.
Et c'était Mélisse Mel. Starhawk parle du pouvoir sûr et du pouvoir du dedans. Le pouvoir sûr, c'est ce qui nous est imposé et a été intériorisé. La conscience, bonne ou mauvaise, qui nous paralyse. Le pouvoir du dedans, ce sont les forces que nous pouvons trouver en nous pour nous libérer. Starhawk est pragmatique. Pour elle, créer des rituels, ce n'est pas se laisser entraîner vers une spiritualité désincarnée, mais le moyen de lier entre eux les individus, et suffisamment pour qu'ils osent penser autrement, rêver, entrer en empathie et agir pour la réalisation d'une utopie commune. Le territoire de notre quête va au-delà du soin individuel et de la nature sauvage. Il est aussi dans la rue, vers les usines nucléaires, les laboratoires militaires, les prisons. Pour changer la culture, dit-elle, nous devons nous relier à l'aide de nouvelles manières. Nous devons changer les structures de nos organisations et de nos communautés. Starhawk, utilise les mots qui justement nous défrisent. Et plutôt que de se bloquer sur leur signification usuelle, on peut essayer de comprendre autrement, de les définir pour nous. La signification usuelle, nous dit-elle, vient du pouvoir sûr. Nous les redéfinissons pour nous avec le pouvoir du dedans. Par exemple, parler de magie, c'est parler de changement, de techniques qui permettent le changement. C'est ce que font les sorciers, les chamans. On dit qu'ils font de la magie. Ce qu'ils font, c'est provoquer un changement de point de vue chez ceux qui viennent les consulter. Pour nous libérer, pour invoquer le pouvoir du dedans, nous devons être prêts à aller au-delà de nos intérêts personnels. Dans une communauté, nous avons le pouvoir de nous guérir et de nous aider l'un l'autre. Dans la deuxième partie de son livre, Starhawk décrit les pratiques, les rituels utilisés dans les cercles de femmes, appelés les cercles des sorcières néo-païennes. Et ce, pour créer cette connexion entre les individus, se retrouver sur une pensée commune et créer une énergie qui permette d'agir ensemble avec une plus grande efficacité et qui peut conduire au changement dans l'action politique et le changement de politique. J'en ai fini avec mon laïus, mais pour terminer, je vais vous faire écouter une chanson qui n'a rien à voir avec ce qui précède, et c'est pour pouvoir la dédier à Félice Potin.
Dans mon harmonium, il y a une araignée énorme, je lui joue de la musique. Il paraît que ça pique, elle est venue faire son toit dans la robe de bois de mon harmonium. Comme elle est mignonne, rititi, ratata, rititi, ratata. Dans mon harmonium, il y a une araignée énorme, je lui joue des requiem. Il paraît qu'elle aime, elle est très gentille, mais je suis comme les filles. Ça me fout la trouille, paraît que ça chatouille. Rititi, ratata, rititi, ratata. Dans mon harmonium, y'a une araignée qui lorgne du côté de ma personne. Paraît que ça saucissonne, que ça mange son époux comme un vulgaire fou après la marche nuptiale. Paraît que c'est normal, moi dans mon délire, ça me fait défaillir. Et quand elle promène son rose abdomen, je me vois à la mort. Alors sur mon ordre, je joue pour la veuve. Paraît que c'est meurtre. Rititi, ratata,
ratata.
Eh bien, merci pour la dédicace. Alors, quand même, un petit mot sur cette dédicace. Puisque nous étions en train de parler de chamanes et de sorciers et de sorcières, Mémeil est une grande sorcière. Parce que jusqu'à rencontrer Mémeil, j'ai été arachnophobe. Et aujourd'hui, j'arrive même à les trouver mignonnes. Je ne les touche pas encore, mais je les trouve mignonnes. Merci pour la dédicace. Comme quoi.
Bon, t'es pas sortie du studio, donc
pas encore, mais il fait froid en même temps, cache, mais bon. Voilà. On verra bien au printemps. Par contre, moi j'avais une question à te poser, on a vraiment des exemples de villages où les femmes ont été toutes décimées pour sorcellerie.
Oui, alors malheureusement je me souviens plus le nom du village qui a été cité dans la littérature que j'ai trouvé, mais c'est une réalité. Vraiment, il n'y avait plus de femmes, donc des paysannes et des gens du peuple. Hein. Il est bien évident que...
Ouais, elles triment aussi les paysannes, donc s'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus...
Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire admettre que, voilà, on compte toutes les femmes, et puis que faisaient les hommes, comment ils faisaient, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas d'indication là-dessus. On peut penser que les villages voisins, quand même...
Ils devaient avoir la trouille, quand même. De céder leur jeune femme en mariage à un village où on décime les femmes, c'est bizarre quand même. Et il n'y a pas d'exemple de nobles qui...
Non.
Qui auraient été condamnés pour ça.
Il y a les empoisonneuses, ça oui. On n'est pas dans
notre cher Médicis.
on n'est pas dans le cas des guérisseuses. Enfin, l'objectif est vraiment très différent et l'état d'esprit très différent entre ces. Et donc,
C'est intéressant ce parallèle qu'elle fait entre ce que subissent les femmes au cours des âges de la part du pouvoir des hommes et ce que subit la nature. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce passage-là ou pas ?
Eh bien, alors, c'est une réalité qui est citée dans beaucoup d'ouvrages d'historiens, d'anthropologues, de paléontologues, que ce passage à l'agriculture et à l'accumulation.
Une économie débridée, tu veux dire ?
Qui a et le fait que ce que dit la Bible, croissez, multipliez, soumettez la terre, et c'est cet esprit-là. On a droit de tout faire, sans craindre quoi que ce soit, sans se rendre compte.
De la destruction
que ça implique. Le fait de pouvoir faire, techniquement, a entraîné qu'on a fait n'importe quoi. La technique, ayant trouvé plein de moyens, de piller, on peut dire.
Oui, puis après, on peut tout justifier, effectivement. On peut justifier effectivement qu'on multiplie les cultures, qu'on multiplie les élevages, qu'on multiplie...
Tout ça, on les multiplie. Alors c'est du fait qu'on multiplie, donc on, disons que la population augmente. Ça, c'est une réalité aussi. Quand on a les moyens de subsistance, Et puis c'est un entraînement. Plus on arrive à se nourrir, plus il y a de la population. Quoique, je sais pas, en Inde où il y a une population très très importante, ils se reproduisent. Quoique ça a changé. Je crois que ils sont plus en tête de la multiplication. On disait toujours en Inde, il y a beaucoup de monde, puis il y a plein d'enfants. Mais je crois qu'il y a actuellement une régulation. Mais donc, on ne pouvait pas dire que cette multiplication était due au fait qu'ils avaient mieux à manger. Hein. Je ne sais pas.
Bah oui, parce qu'il y a quand situation... même encore des tas de pauvres partout dans le monde, des tas de gens qui mangent pas
alors,
à leur faim.
Oui, mais alors là, c'est disons que c'est le développement de notre façon occidentale de voir les choses qui ont fait qu'on est intervenu, en fait, dans l'équilibre dans toutes les sociétés. Parce que avant, avec les règles des différentes sociétés, par exemple en Afrique, les règles étaient telles que ça permettait d'avoir un équilibre entre les. Bon, ne serait-ce que d'avoir introduit. Alors, bon, on va dire, c'est terrible ce que je dis, hein, mais
la médecine. Séquence terrible.
Non, mais c'est vrai. On a vacciné les enfants, on a fait des luttes comme ça, mais on n'a pas prévu derrière de les nourrir.
Ouais.
Naturellement, il y avait effectivement de la morténatalité.
L'humain réfléchit pas assez aux conséquences de
conséquences de ce qu'il fait.
De ces projets.
Particulièrement les Occidentaux. Bon, voilà.
Et toi, est-ce que tu as participé à un groupe de femmes, comme tu en parlais tout à l'heure ?
Non, pas encore, mais...
Tu en connais ?
Je n'en connais pas, non. Je sais qu'il y en a en France, hein, qui ont été créées, peut-être à la suite de, ben justement, de ce bouquin. Et ce qui est remarquable, c'est que ce que dit Starwalk et son bouquin, quand même, remonte à quelques années. Alors, sur une autre... d'une autre façon, mais Naomi Klein, dans son bouquin « Dire non ne suffit plus », elle dit la même chose. Qu'il faut... Et puis, je crois que Trump est un choc qui a réveillé pas mal de conscience. Mmh. Et ce qu'elle dit, et ce qui commence à se faire aux États-Unis, c'est que les gens se regroupent. Et il n'y a plus de... Qu'ils soient noirs, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient n'importe, toutes les associations, qu'ils soient écologistes, toutes les associations essayent de se regrouper pour justement... D'ailleurs, ils ont produit un document pour servir de base à ceux qui sont appelés à gérer les communes, enfin les pays, les États, pour justement créer autre chose, une utopie, mais une utopie qui marche. Mmh. Et que ce soit Starwalk ou que ce soit Naomi Klein, elles y croient. Mmh. C'est possible.
Il faudrait donc trouver une nouvelle définition pour le mot utopie ? Une utopie qui marche.
Une utopie. Mais oui, mais utopie, c'est pas forcément,
irréalisable.
Irréalisable. Mmh. Une utopie, c'est rêver à un autre monde et ce monde a essayé de le réaliser. Mmh. Réaliser une utopie, ça s'est déjà fait. Mais bon, voilà.
Donc nous, on va se mettre en quête d'un groupe de femmes, comme ce qui. Comme celui-là, qui est déjà constitué, pour aller à leur rencontre et voir un petit peu de quoi elles parlent et comment...
Oui, parce que...
Comment elles vivent.
Oui, ouais, parce que c'est vrai que ces luttes fragmentaires... peuvent aboutir. Mais moi, je pense, par exemple, la lutte du Larzac, c'est emblématique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le terrain militaire qui ne s'est pas installé à Larzac, il est allé s'installer sur le plan de Canjouers, dans le Var. Ce qui n'a rien changé à la logique de vente d'armes et des interventions guerrières de la France. Ça n'a rien changé.
Bah, sauf si dans le Var, ils s'étaient bougés.
Mais ils ont dû choisir en sachant que... Bon, le plan de Canjouers, c'était un truc de parcours. Hein. C'était que du parcours pour les moutons. Il ne devait pas y avoir de gens qui cultivaient réellement. Mmh. Et puis, bon, on a dû leur... Mais on leur a même pas filé du fric. Je crois qu'ils ont été spoliés, mais sans qu'on leur file du fric. Vache.
C'est fou, ça fait peur.
Mais c'est vrai, ils n'étaient peut-être pas assez nombreux, et puis ils n'avaient pas une culture de... Ouais. De protestation. De militants. Peut-être que dans les Alpes-Maritimes... Pas les Alpes-Maritimes, mais les Alpes de Haute-Provence, ça serait peut-être pas passé de la même façon. Donc, Mais on m'a expliqué récemment, au cours du réveillon du jour de l'an, que ces luttes, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit, pouvaient finir par cristalliser tous ceux qui ont envie de changer et de faire des propositions, une utopie, que ça pouvait marcher. Et puis que ça pouvait entraîner les différents responsables dans les différents territoires à
penser autrement.
Bien sûr. Moi, je voyais plutôt que vraiment, on s'attaque à des choses générales, parce que tout ça, tout ce qu'on subit, c'est vraiment la logique capitaliste, la logique financière, et que si on s'attaque pas à ça...
Mais peut-être qu'il y a différentes façons de s'y attaquer.
Voilà.
Donc, plusieurs points d'entrée.
Mais il faut faire nombre quand même, hein. Naomi Klein le dit bien, hein. J'en ai pas entendu parler, mais peut-être que j'écoute pas assez les informations, mais peut-être qu'on n'en parle pas sur les informations, sur les réseaux officiels. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de manifestations et de réactions aux États-Unis. Il y a des États qui refusent les règles que Trump met en place en abrogeant tout ce qu'a fait Obama. Et il semblerait que quand même il y a un mouvement assez important. Donc on peut se demander si en France on pourrait pas... Peut-être qu'on n'est pas assez en danger, on ne se sent pas assez agressé.
Oui, mais si, moi je pense qu'on est assez, on se sent assez agressé, qu'il y a pas mal de mouvements, mais que peut-être qu'on n'est pas au courant de tout, effectivement. Et puis que c'est quand même un plus petit pays que les États-Unis, hein, donc peut-être qu'il faut que ça dure un petit peu plus longtemps, qu'il y ait plusieurs groupes.
Parce que ce qui est gênant, par exemple, ne serait-ce qu'en écologie, quand on voit que les différents partis écologiques ils se tapent dessus dans un même parti...
Ça, on est d'accord. La diversité, c'est français.
Comment on va faire s'il y a des égos qui, quelle que soit la situation, il n'y a pas que les politiques qui ont des égos comme des...
Alors, 2018, à bas l'égo, c'est ça ?
À bas l'égo.
On va peut-être écouter un petit morceau, un petit passage. On verra après avec Tony si on l'écoute jusqu'au bout ou pas. Je voudrais vous faire écouter un morceau que j'aime beaucoup d'un grand chercheur musical qui s'appelle Pierre-Henri, qui s'appelait Pierre-Henri. Et un de ses morceaux les plus célèbres qui s'appelle... Je ne sais plus, j'ai un trou... Psyché Rock, pardon.
Yeah, c'est ça, ouais. Allez, j'envoie.
Thank you.
comme je vous l'annonçais tout au début, j'ai pris l'animation au pied levé, puisque c'était Chaussette qui était censée être là à ma place, et moi au studio avec Tony, mais bon, voilà, ce sera pour le mois prochain. Donc, petite nouvelle quand même de Chaussette, petit dernier message, vallée du Tarn, temps écossais, brume, nuit et pluie, je me traîne, petit smiley désabusé. Donc, ben, fais comme tu peux. Fais comme tu peux, nous on est là au chaud et puis ben
si on parlait de Noël.
Ouais, si on parlait des festivités de fin d'année. Oh, il y a beaucoup de gens qui aiment pas.
Ouais.
Tu as des choses
bon,
à nous raconter
pourquoi... Oui, ben alors d'abord Noël.
Oui, hein, Noël.
La veille de jour fête chrétienne par définition.
Ouais.
Hein? Et ben Noël n'a pas toujours existé dans la chrétienté. Ça a été mis en place au IIe siècle. Et pourquoi le 25 décembre ?
Aha !
Eh bien, parce que le 25 décembre, c'était un culte rendu à Mithra, la déesse de la lumière.
Mm-hmm.
Et donc, comme c'était ce culte était quand même assez répandu. Et les chrétiens ont toujours essayé de placer leurs fêtes à des moments comme ça de fêtes païennes pour pouvoir convaincre un plus grand nombre d'individus d'adopter leur religion. Mais en fait, entre le 21 décembre et le 6 janvier, le 21 décembre et le 6 janvier, dans beaucoup de cultures, il y a cette fête de la lumière qui prend des formes différentes, mais qui c'est toujours le même moment. Et d'ailleurs, les orthodoxes, si je ne me trompe, pour eux, la naissance de Jésus, ils le fêtent le 6 janvier.
D'accord. C'est parce que la journée rallonge à partir du 21 décembre, c'est
voilà. À partir du 21, donc c'est l'équinoxe. Non, qu'est-ce que je raconte ? Solstice.
C'est le solstice.
Solstice d'hiver, et c'est là où les jours commencent à allonger. Et donc, dans toutes les traditions, pratiquement, on fête ce renouveau de la lumière.
Voilà. Et donc, alors, Noël, t'as fait quoi, Noël, toi ?
Eh bien, moi, à Noël, je ne dirais pas où nous sommes allés. Avec deux copines, on est allés, on a crapahuté du côté de Tournemire. On a réveillonné dans une grotte.
Génial.
Et voilà. Et bon, on était bien contents. Il ne faisait pas trop froid. Il bruinait un petit peu, mais pas trop. Et voilà, ben on était bien contentes d'être là. Et on avait fait ça l'année dernière ailleurs. Et puis l'année prochaine, j'espère qu'on pourra...
C'est pas banal comme réveillon de Noël.
Bah, moi, j'ai un petit peu l'habitude, quand j'étais dans le sud, pratiquement, j'allais sur les... D'ailleurs, il y a un moment, dans les Alpes-de-Haute-Provence, j'ai des souvenirs. Je montais sur la montagne à 2000 et quelques mètres, et qui dominait le plateau de Valensole.
Mm-hmm.
Et là, le coucher de soleil... Et le lever de soleil.
Le lever de soleil, en plein hiver, c'est magnifique.
Le lever de soleil. Moi, j'étais dans ma voiture, hein, bien au chaud, dans les couettes maximum. Mais c'est un spectacle extraordinaire. Hein.
Ouais, il faut être bien couvert. Parce que je me souviens, moi, d'un premier de l'an, dans une voiture du côté de Roquefort, où j'avais un peu froid quand même.
Alors, j'ai un autre souvenir, si je peux me permettre.
Ah ben, avec plaisir. Hein.
Alors là, j'avais débauché mon fils cadet. On devait aller... J'avais repéré une baume dans le Verdon et j'avais tout préparé, j'avais même une nappe, des verres, bon bref. Et il s'est mis à tomber une pluie. On s'est réfugié dans une chapelle et dans cette chapelle, bon, il y avait un âne, l'extérieur de la chapelle, hein, et puis des jeunes gens qui attendait le père Gilbert, qui tous les ans fait son Noël, la messe de Noël, dans ce village des Alpes de Haute-Provence. Et voilà, donc on s'est retrouvés là. Quand la messe a commencé, c'est mon fils qui est allé sonner les cloches à la demande de père Gilbert. Et puis... Je ne sais pas si je peux dire ce qu'on avait fait avant. On avait essayé.
Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas interdit par le CSA ? Si c'est pas interdit, tu peux.
Non, on avait fumé un petit peu.
Ah bon, des cigarettes. Oh là là, ouais, c'est pas bien. Hein. Que c'est pas bien.
Bon bref, donc là c'est vraiment ça nous a laissé, enfin mon fils il a laissé un souvenir et puis alors il fallait entendre le père Gilbert quasiment insulter les gens du coin, là, du village, en leur disant mais que vous vivez comme des bourgeois, vous vous rendez pas compte, vous êtes indifférent au mal autour de vous, etc. etc.
Ah, moi, ça, c'est plutôt pas mal comme réveil.
Ah, ouais. Et moi, j'étais scotchée, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, voilà.
Eh bien, moi, j'ai vu une petite chose cette année dans une vitrine, je ne dirais pas où, à Sainte-Afrique. J'ai vu une crèche de Noël qui était tout à fait avéronnaise parce qu'à la place des moutons, il y avait des petits cochons. Elle doit y être encore. Donc, ben, regardez les vitrines de Sainte-A, vous verrez, vous la trouverez peut-être. Il n'y a pas de cochons à gagner, mais bon. Voilà, ouais. Et ben je pense qu'on va peut-être écouter la musique que voulait nous passer Chaussette ce soir. Et j'espère que ben au volant de sa voiture dans le brouillard et dans la nuit, les pieds trempés, elle va pouvoir entendre quand même son morceau préféré. Donc c'est Marvin Gaye et c'est le morceau J'arrive de suite, Sexual Healing.
Tonight, wake up,
Tu parlais du père Gilbert, mais moi je le connais pas, c'est qui
Alors le père Gilbert, c'est le curé en Santiago.
D'accord.
Et alors dans le Verdon, il a une ferme où en fait la justice lui confie des jeunes délinquants qui sinon seraient en prison.
D'accord.
Et là, ben il y a des animaux, il faut s'en occuper. D'ailleurs, c'est comme ça moi que j'ai connu cette ferme, c'est par les animaux. Et voilà, donc.
D'où les invectives pour les bourgeois.
Ouais.
Bien, et ben ce bar à chatte le premier de 2018 ben va s'achever. Merci de votre fidélité. Chaussette, puisque tu n'es pas encore arrivée et que j'espère bien que tu nous écoutes, ben tu as un gage pour le mois prochain, c'est toi qui fais la dîme, c'est toi qui fais le gros papier et tu apportes le champagne. Voilà. Alors le bar à chatte est diffusé le premier mardi comme ce soir à 18h, le mercredi à 14h et le samedi de la même semaine à 16h. Merci beaucoup, venez nous rejoindre, vous savez qu'on est ouvert et à partir du mois prochain, on vous annoncera les thèmes parce que nous avons choisi des thèmes et tous les mois nous traiterons de thèmes particuliers. Nous vous les annoncerons donc le mois prochain. Bon, merci.
Puis on fera des petits rappels à chaque fois.
Voilà. Merci Tony, merci.
Oui, merci.
Merci à tout le monde et à très bientôt.
Miaou, miaou.
Miaou. Oh, j'ai cru voir un romain.
Chalor.
Miaou.
Miaou, 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 miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou. Miaou. Tcha tcha tcha.
Qu'est-ce qu'on dit ? Chale ta montre.
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse,
de Radio Saint-Afrique.
Miaou.